De la plume à l'oreille, feuilleton littéraire. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce premier épisode de la toute nouvelle émission De la plume à l'oreille, feuilleton littéraire sur les ondes de Canal M. Permettez-moi d'abord de me présenter. Je suis André Lebeau, lecteur bénévole pour Vues et Voix et réalisateur de cette émission concoctée pour vous qui aimez la lecture. Au fil des semaines, je serai accompagné d'autres lecteurs et lectrices bénévoles pour faire la lecture d'œuvres écrites par des écrivains et des écrivaines d'ici, et parfois d'ailleurs, qui se trouvent désormais dans le domaine public. Pour réécouter l'un des épisodes ou pour écouter le livre dans son intégralité, ou encore connaître l'horaire de diffusion, rendez-vous sur le site web de Canal M à l'adresse canalm.vuesetvoix.com. Nous lirons pour vous principalement des romans, mais aussi des contes, des fables, des nouvelles, des récits et des poèmes. Comme on le faisait autrefois en écoutant les radios feuilletons, revenez-nous semaine après semaine pour écouter la suite du livre en cours ou pour en découvrir un nouveau. Notre but est de vous offrir un moment de détente et d'évasion où vous découvrirez des personnages et des mondes fascinants créés par des écrivains et des écrivaines à l'imagination sans pareille. Aujourd'hui, nous vous présentons « La Squin », un roman d'Albert Laberge publié en 1918. Né en 1871 à Beauharnois et mort en 1960 à Montréal à l'âge de 89 ans, Albert Laberge est un écrivain québécois, journaliste sportif au quotidien montréalais La Presse et membre de l'École littéraire de Montréal. L'Anthologie de la littérature québécoise de Michel Lorrain nous apprend que l'auteur, influencé par les écrivains naturalistes, décide de prendre résolument le contre-pied de l'idéologie officielle. Sous sa plume, les personnages d'une famille installée dans une ferme deviennent des monstres tantôt physiques qu'au moral, alors que la terre est tout juste bonne à fournir du pain sûr et amer. Il livre une description âpre et parfois brutale de la vie paysanne. Tout cela dans un langage coloré et avec une bonne dose d'humour. Ce noircissement du monde paysan attire à Laberge les foudres de l'évêque de Montréal, Monseigneur Bruchesi, qui condamne le roman avant même sa publication en le qualifiant d'ignoble pornographie et met en demeure le journal La Presse de le licencier. L'édition de référence pour cette lecture est celle des éditions de l'Actuel, parue en 1972 et maintenant disponible sur le site de la Bibliothèque électronique du Québec dans la collection Littérature québécoise. Cette œuvre a été adaptée pour la lecture radiophonique. Certains termes employés dans le texte original ont pu être actualisés ou modifiés. Sans plus tarder, voici le premier de quatre épisodes consacrés à la lecture de La Squin. Au micro pour cette lecture, votre hôte, André Lebeau. Bonne écoute. La Squin, par Albert Laberge. Dédicace. À mon cher frère Alfred qui, près des grands peupliers verts, pointus comme des clochers d'église, laboure et ensemence de ses mains le champ paternel, je dédie ces pages. Albert Laberge. Chapitre 1. De son grand couteau pointu à manche de bois noir, Urgel Deschamps, assis au bout de la table, traça rapidement une croix sur la miche que sa femme Massot venait de sortir de la huche. Ayant ainsi marqué du signe de la rédemption le pain du souper, l'homme se mit à le couper par morceaux qu'il empilait devant lui. Son pouce laissait sur chaque tranche une large tache noire. C'était là un aliment massif, lourd comme du sable, au goût sûr et amer. Lorsqu'il eut fini sa besogne, Deschamps ramassa soigneusement dans le creux de sa main les miettes à côté de son assiette et les avala d'un coup de langue. Pour se désaltérer, il prit une terrine de lait posée là tout près et se mit à boire à longs traits, en faisant entendre de la gorge un sonore glouglou. Après avoir remis le vaisseau à sa place, il s'essuya les lèvres du revers de sa main sale et calleuse. Une chandelle posée dans une soucoupe de faïence ébréchée mettait un rayonnement à sa figure barbue et fruste de travailleur des champs. L'autre bout de la table était à peine éclairé, et le reste de la chambre disparaissait dans une ombre vague. Un grand silence régnait, ce silence triste et froid qui suit les journées de dur labeur. Et Masso allait et venait, avec son ventre énorme et son goitre semblable à un battant de cloche qui lui retombait ballant sur la poitrine. Elle parla. « Mon vieux, je crée bien que je vais être malade. »«
À soir? » »«
Je crée que oui. » »«
Ça serait peut-être bien mieux d'aller crier le docteur. » »«
Je crée que oui. » »«
J'irai après manger. »
Dans la pièce où l'ombre écrasait le faible jet de lumière, le silence se fit plus profond, plus lourd. Soudain, un grondement souterrain ressemblant à un sourd roulement de tonnerre se fit entendre. C'était une manœuvre. Le petit Baptiste, qui venait de basculer dans la cave profonde d'un tombereau de pommes de terre. L'instant d'après, il entrait dans la cuisine où Deschamps attendait d'un air morne. L'homme de peine, très petit, était d'une laideur grandiose. Une tête énorme de mégacéphale surmontait un tronc très court, paraissait devoir l'écraser de son poids. Ce chef, presque complètement dépourvu de cheveux, ressemblait à une aride butte de sable sur laquelle ne poussent que quelques brins d'herbe. La picotte avait outrageusement labouré ses traits et son teint était celui d'un homme souffrant de la jaunisse. Ajoutons qu'il était borgne. Sa bouche édentée ne laissait voir, lorsqu'il l'ouvrait, que quelques chicots gâtés et noirs comme des souches. Il se nommait Baptiste Bagon, dit le coupeur. En entrant, il jeta dans un coin son vieux chapeau de paille, puis, ayant relevé les manches de sa chemise de coton, se mit à se laver les mains dans un bassin en bois. Pendant qu'il procédait à cette sommaire toilette, la porte s'ouvrit brusquement, et trois bambins entrant à la course allèrent s'asseoir côte à côte sur un sofa jaune disposé le long du mur. Bagon s'essuya les mains au rouleau en toile accroché à la cloison et vint se mettre à table. Gourmandement, il examina d'un coup d'œil ce qu'il y avait à manger et sa figure exprima une profonde déception. Il avait espéré mieux et était cruellement déçu. Les enfants s'approchèrent à leur tour et le repas commença. Deschamps tenait son bol de soupe à la hauteur de sa bouche pour aller plus vite. Comme lui, les autres lapaient rapidement et les cuillères frappèrent bientôt bruyamment le fond des assiettes vides. Bagon piqua de sa fourchette un morceau de lard et deux grosses pommes de terre à la coque, à la mode de Masso, c'est-à-dire non pelées et cuites dans le canard. À la première bouchée, il fit une vilaine grimace et ses joues eurent des ballonnements grotesques, de brusques et successifs mouvements de droite et de gauche. « Batèche !» jura-t-il enfin. « C'est chaud !» Il s'était brûlé la bouche. Des larmes lui étaient venues à l'œil et roulaient sur sa face ravagée. Les petits, amusés, riaient en se poussant du coude. Au dehors, les voitures revenant de porter des charges de grains au village passaient au grand trot avec un bruit de ferraille et de sabots sur la route dure comme la pierre. Elles s'entendaient de très loin dans la nuit noire et froide et tenaient tard en éveil les chiens qui jappaient au passage. La Saint-Michel, date des paiements, approchait, et les fermiers se hâtaient de vendre leurs produits. Granges et hangars se vidaient, et l'on ne gardait que juste la semence pour le printemps suivant. Le repas continuait monotone et triste, et chacun mastiquait gravement le pain sûr et amer, lourd comme du sable, que Deschamps avait marqué d'une croix. « Allez donc créer une tasse d'eau, » dit Bagon en regardant du côté des jeunes. Pas un ne bougea. Alors Bagon se leva lui-même, mais il en fut pour son trouble. Le gobelet résonna sur le fond du seau. Celui-ci était vide. Bagon revint s'asseoir. Il avait soif et était tout rouge, mais plutôt que d'aller au puits, il préférait souffrir. Comme dessert, il alluma sa courte pipe de terre, et une fumée bleue et âcre s'éleva lentement au plafond traversé de solives et caries.
repus, les enfants regardaient les figures fantastiques que leur imagination leur faisait entrevoir dans le crépi du mur. Ils voyaient là des bêtes monstrueuses, des îles, des rivières, des nuages, des montagnes, des guerriers, des manoirs, des bois, mille autres choses. De temps à autre, Bagon lançait devant lui un jet de salive. Les pieds de Massot, en ces continuels va-et-vient, pesaient plus lourdement, traînaient comme ceux des vieux mendiants à la fin de la journée. Le silence régnait depuis longtemps. « Habillez-vous !» fit tout à coup Deschamps en s'adressant à sa progéniture. « Vous allez aller coucher sous les Lecomtes. » Ce fut une stupeur chez les trois bambins qui regardèrent avec ennui du côté de la porte. Charlot, le plus jeune, ne parvenait pas à trouver son chapeau. Sur l'ordre de Deschamps, Bagon alla atteler un cheval à la charrette. Le père et les enfants sortirent alors et, se suivant l'un l'autre, se rendirent chez le voisin. Lorsqu'ils revinrent chez eux le lendemain avant midi, les jeunes virent une mare de sang à l'endroit où d'ordinaire on jetait les eaux sales. La mère Lecomte était en train de préparer le dîner. Elle leur apprit qu'ils avaient deux petites sœurs nouvelles. Enveloppées dans un couvre-pied multicolore, fait de centaines de petits carrés d'indienne, la plupart d'une couleur et d'un dessin différents, les deux jumelles grimaçaient en geignant auprès de leur mère malade. Après la grand-messe le dimanche suivant, Deschamps, en attendant la soupe, inscrivit sur la garde de son paroissien, à la suite d'autres notes, la date de naissance de ses deux filles. La page se lisait comme suit. Joseph Zéphirin Raclore est né le 12 janvier 1846 et a été baptisé le 15 janvier. Joseph-Claude Télesphore est né le 10 mars 1847 et a été baptisé le 13 mars. Joseph-Henri Charles est né le 20 mai 1848 et a été baptisé le 23 mai. Marie-Caroline est née le 29 septembre 1853 et a été baptisée le 2 octobre. Marie-Rose Polima est née le 29 septembre 1853 et a été baptisée le 2 octobre. Chapitre 2. Des années ont passé. Le fermier Deschamps, acharné à la tâche et voulant acquérir de beaux deniers pour ses enfants, n'épargnait ni peine ni misère. Patient et opiniâtre, il était satisfait de travailler toute sa vie, pourvu qu'un jour, il pût réaliser son ambition. Âpre au gain et peu scrupuleux, il avait parfois des difficultés avec ses voisins et alors il cognait. À différents intervalles, il avait acheté à côté de la sienne des terres pour Raclore et Tifa. Dernièrement, enfin, il était devenu le propriétaire d'un troisième terrain qu'il convoitait depuis longtemps et qui serait le patrimoine de Charlot. C'était un lot de 100 arpents, si au bout des autres propriétés de Deschamps et se prolongeant jusqu'au canal qui traverse la région. Massot continuait à faire du pain sûr et amer, lourd comme du sable. Caroline et Polima étaient maintenant d'âge à aller à l'école, et Massot leur fit à chacune une robe d'indienne rose dont elles furent très fières. Les deux sœurs les étrennèrent un dimanche de mai et le lundi matin, elles partirent pour la classe. Elles emportaient, enveloppées dans un mouchoir rouge, leur dîner consistant en une couple de tartines arrosées de mélasse. Un peu intimidées tout d'abord, les Besson eurent vite fait de se déjeuner. Elles occupèrent sur le banc des filles les deux dernières places, toutes labourées d'inscriptions au canif et tachées d'encre. À midi, l'Angélus récité, ce fut une brusque explosion de cris, de rires. Une échappée vers la porte des enfants allant dîner chez eux. Comprimée, étouffée pendant 3 heures, cette jeunesse reprenait enfin ses droits. À la contrainte et au silence auxquels elle était forcée depuis le matin, succédait une exubérance de vie et de gaieté. Chacun mordait avec appétit à la tranche de pain de son dîner. Clarinda et François Potvin eux-mêmes semblaient trouver délicieuse leur éternelle compote de citrouille. Tout de suite, Caroline et Eugénie Lecomte étaient devenus camarades. très blanche, de cette blancheur de clair de lune particulière à certaines religieuses ayant passé quelques années enfermées dans un cloître, blancheur rehaussée, exagérée par d'abondants cheveux châtains foncés, Eugénie avait une figure d'infinie douceur qu'illuminait à des minutes précieuses un fin et discret sourire. Son air était modeste, timide, et ses yeux possédaient un charme, une attirance irrésistible. Le groupe de jeunes filles alla voir les garçons jouer à la clé. Après la prière, le soir, la maîtresse fit passer les élèves dans sa chambre afin de réciter l'office du mois de Marie. Décorée avec un goût pieux, l'étroite et modeste pièce avait une apparence de chapelle. Des images du Sacré-Cœur de Jésus, du Sacré-Cœur de Marie, de Saint-Joseph, de Saint-Louis de Gonzague et de Saint-Jean-Baptiste étaient épinglées au mur. Sur la haute commode brune, recouverte de toile blanche, des branches fleuries de pruniers, placées dans des vases en porcelaine, de chaque côté d'une statuette de la Vierge, répandaient un délicat parfum. On aurait cru qu'un vol de séraphins venant des jardins célestes avait passé par là. Des cierges allumés, à la flamme blanche et douce, créaient une atmosphère religieuse, impressionnaient ces jeunes âmes. Eugénie entra sur le bout du pied comme dans une chambre mortuaire. Les élèves, agenouillés au hasard, mangeaient les réponses des litanies. De sa petite voix grêle, l'institutrice lançait les invocations et les enfants répondaient « Rap nobis, rap nobis, rap nobis ». Note en bas de page. Lecture de la note. En latin, ora por nobis. En français, priez pour nous. Fin de la note. C'était une fuite, un galop furieux. Rap nobis, rap nobis, rap nobis. Ou souvenez-vous, on respira un peu. Polyma se grattait obstinément un pied. À quelques jours de là, les deux Bessonnes furent témoins d'un spectacle moins édifiant. Corinne, la petite Galarneau, la plus dissipée de la classe, avait été encore plus agitée que d'habitude. Et la maîtresse, à bout de patience, après lui avoir fait baiser la terre, l'avoir fait mettre à genoux, puis debout sur le banc, lui avait administré 5 coups de martinet sur chaque main. Corinne avait pleuré pendant 1 heure. Puis le midi étant allée dîner à la maison, à un demi-arpent de l'école, s'était plainte à sa mère. Celle-ci, d'un caractère violent, était devenue furieuse et avait apostrophé l'institutrice surveillant les élèves dans la cour. Elle lui avait lancé une bordée d'injures et de menaces. Pour terminer, elle avait troussé sa jupe par derrière et, d'un large geste de mépris, avait montré à la jeune fille un panorama qui avait scandalisé les enfants. Pâle de rage, la maîtresse était demeurée muette sous l'insulte infamante. Un samedi, Massot avait rapporté du village des bottines pour ses 2 filles. Le dimanche après-midi, les Bessonnes étaient parties pour aller aux fraises avec leurs chaussures neuves. Celle de Caroline, un peu étroite, lui blessait les pieds. Elle en avait ôté une et l'avait mise sur le bord du fossé. Au moment de retourner à la maison, elle avait été incapable de retrouver la bottine. Caroline s'était mise à pleurer en songeant aux reproches qu'elle aurait de son père. Perdre des bottines qui avaient coûté 9 francs. Affolée, elle avait cherché, cherché partout, dans cette verdure receleuse, sans rien trouver. Courbée en 2 et courant presque, elle cherchait en pleurant, les yeux fouillant dans les longues herbes souples, lui frôlant les jambes. « Que dira Poupa ?» se demandait-elle avec terreur. Finalement, elle retrouvait la bottine au fond du fossé. Chapitre 3. Les Deschamps avaient un grand verger et les Bessonnes apportaient chaque jour à l'école 2 belles grosses pommes rouges qui gonflaient de leur forme ronde le sac en toile ciré accroché au mur. À l'heure du midi, elles les sortaient avec ostentation et les croquaient bruyamment de leurs grandes dents malpropres. Des regards d'envie restaient braqués un long temps sur Polyma et Caroline. Les 2 fameuses au ton vermeil, à l'apparence si savoureuse, fascinaient tous ces petits êtres naturellement gourmands. Clarinda et François Potvin s'arrêtaient de manger leurs éternelles tartines à la compote de citrouille et les yeux luisants contemplaient les Bessonnes, ces chanceuses qui, chaque jour de l'année, pouvaient se régaler de la sorte. « Jette-Paul Traignon, Dame Molly, » quémandait parfois une compagne, succombant à la tentation. Assez fréquemment, poliment cédait la moitié de son fruit à une voisine pour corriger son thème. Et alors, quelle fête pour celle-ci! Eugénie Lecomte ne goûtait à une pomme que deux fois par année alors que ses parents allaient rendre visite à sa grand-mère maternelle, qui demeurait à 10 lieues de là. Celle-ci n'avait que 2 pommiers dans son jardin, mais elle n'oubliait jamais au départ de ses enfants de leur remettre quelques sauvageonnes pour sa filleule. Le lendemain des rois, après les vacances du jour de l'an, Eugénie vint à son tour à l'école avec une pomme. Bien souvent, pendant la semaine, elle avait été tentée d'y mordre un peu, mais elle en avait été empêchée par une innocente vanité. Comme Polima et Caroline, elle voulait se montrer devant les élèves avec une pomme. De bien grands combats s'étaient livrés en elle au sujet de cette friandise, mais après de longues hésitations, l'orgueil l'avait emportée sur la gourmandise. 20 fois pendant la classe, Eugénie pensa à la pomme à filet rose donnée par sa mémère. Comme il y avait des visiteurs à la maison et qu'elle devait prendre le repas en famille, les Bessonnes n'avaient pas apporté leur dîner ce jour-là. Le dernier amen de la prière prononcée et le signe de croix à peine esquissé, Eugénie ouvrit son sac. Elle tenait sa pomme et elle éprouvait à la regarder une sensation exquise, inexprimable. Pendant ce temps, les Bessonnes mettaient leurs manteaux et nouaient les cordons de leur capine de laine rouge. Poliment vit Eugénie avec sa pomme. « Donne-moi-en Anne Boucher, » demanda-t-elle. Eugénie ne savait refuser. Avec un serrement de cœur, elle tendit le fruit. L'autre le prit et, insoucieuse, indifférente, sans plaisir peut-être, comme elle faisait chaque midi, elle croqua bruyamment, puis, sans se retourner, sans rendre la pomme, elle marcha vers la porte, sortit, s'en alla. Chapitre 4. Polima pissait au lit. Chaque nuit, il lui arrivait un accident. Au matin, sa chemise et ses draps étaient tout mouillés. Après le départ des Bessonnes pour la classe, Massot, l'été, faisait sécher la paillasse au soleil sur le four. L'hiver, sur 2 chaises auprès du poêle. À l'école, à cause de l'odeur qu'elle répandait, ses camarades avaient donné à Polima le surnom de Squin, mot sans signification aucune, interjection vague qui nous ramène aux origines premières du langage. Le sobriquet lui resta. Chapitre 5. Chaque soir, invariablement, en sortant de l'école, les garçons arrêtaient à la boutique de Forge. C'est là qu'ils avaient leur meilleure récréation de la journée. Quelques-uns regardaient le père Duprat ferrer un cheval, ou le bras passé sur le manche de son soufflet, activer le feu tout en fumant la pipe et en racontant les nouvelles du rang aux fermiers du voisinage. D'autres grimpaient sur le toit d'une petite remise attenante à l'édifice et se poursuivaient. D'autres encore jouaient à la clé ou couraient parmi les tombereaux neufs sentant la peinture fraîche, les herses aux dents aiguës et les charrues à réparer. Ces jeux finissaient toujours par un concours à qui pisserait le plus haut, et le côté ouest de la bâtisse subissait ainsi chaque jour un arrosage qui dessinait sur les planches une série d'ombres chinoises. La Squin, dont le penchant à la délation s'accusait déjà, porta ses faits à la connaissance de l'institutrice. Comme résultat, les écoliers subirent une sévère remontrance et furent tous gardés en retenue 1/2 heure durant après la classe. Les garçons se promirent bien de se venger de cette porte-paquet. Quelques jours s'écoulèrent cependant sans que la Squin fût le moins du monde inquiétée. L'incident paraissait clos. Un matin, François Potvin annonça qu'il avait capturé la veille un écureuil et l'avait mis en cage. Cette nouvelle intéressa fort ce petit monde. Plusieurs des gamins manifestèrent le désir de voir l'animal. Sa boîte est sous la remise. Vous n'avez qu'à arrêter en passant, déclara François qui était subitement devenu un personnage important. À la sortie de l'école, une dizaine d'enfants le suivirent. Toujours curieuse, la Squine se trouvait du nombre. Aussitôt qu'ils eurent pénétré dans le bâtiment, François ferma brusquement la porte. Alors, aux hurlements enthousiastes du groupe, tous les garçons se tournant vers la Squine l'arrosèrent copieusement comme s'ils eussent été à leur concours à la boutique de forge du père Duprat. La Squine suffoquait de honte et de colère. Toute trempée, ruisselante, comme si elle eût essuyé une averse, elle s'échappa en larmes et s'éloigna poursuivie par les quolibets et les rires des garçons enfin vengés. Chapitre 6. Les Besson avaient maintenant 12 ans et marchaient au catéchisme. Polima faillit être renvoyée car elle était dissipée et fort ignorante en fait d'instruction religieuse. Le vicaire chargé du cours l'interrogea un jour. « Quelles sont les conditions pour recevoir la communion ?» Embarrassée, Polima garda le silence. « Pourrais-tu communier maintenant ?»«
Non. »
« Pourquoi ?»«
Parce que je suis en péché mortel, » répondit Polima à l'ébahissement des autres préparants et à la stupéfaction du prêtre.
En raison de son âge, cependant, le curé ne crut pas devoir la remettre à une autre année et les deux sœurs annoncèrent un soir à leur mère qu'elles étaient acceptées. Le lendemain, Massot alla au village apportant 20 douzaines d'œufs et un panier de beurre afin d'acheter les robes blanches, les voiles, les gants, les bas et les souliers pour ses filles. Ce fut une grosse journée d'emplette. À quelques jours de là, Massot résolut de teindre sa laine, et un après-midi, à leur retour du catéchisme, elle chargea Polima et Caroline d'écorcer les tiges d'aunes que son mari avait été chercher au bout de son champ. Lorsqu'elles eurent terminé leur besogne, les deux fillettes avaient les doigts couleur café. Elles eurent beau les laver énergiquement, rien n'y fit, et c'est avec ses mains noires que 2 jours plus tard, elles prirent, en s'agenouillant, la nappe blanche de la sainte table. Pour conduire ses filles à l'église ce matin-là, Deschamps avait attelé 2 chevaux à sa voiture. Il avait aussi cru convenable de se coiffer pour la circonstance de son tuyau de noces. Après la cérémonie, il amena Polima et Caroline auprès de la vieille femme qui, installée à côté du perron de l'église avec un grand panier de sucrerie, faisait accourir tout le petit monde. Il y avait foule autour de la marchande. Au moment où Deschamps, tenant les Besson par la main, arriva au centre du groupe, il se produisit un incident qui causa tout un émoi. Un garçon de 10 ans avait demandé 5 bâtons de tir. Lorsqu'il les avait eus, il était parti à la course, sans payer, se coulant à travers les paroissiens avec une agilité étonnante. La vieille était devenue toute rouge de colère. « Si c'est pas honteux, un enfant qui vient de faire sa première communion me voler comme ça !» s'exclama-t-elle. Et elle rageait de son impuissance à ne pouvoir gifler le gamin. Le père invitait ses filles à choisir dans la manne ce qui leur plaisait davantage. Caroline prit un bonhomme rouge et blanc et Polima une palette de gomme et 4 pipes en sucre d'orge. La classe de l'après-midi venait de commencer lorsque les Besson firent leur entrée à l'école en toilette de première communiante. Leur apparition fit sensation. Tout de suite, l'institutrice alla vers elle et les embrassa. « Comme ça, vous avez fait votre première communion ?» demanda-t-elle. « Eh oui, » répondirent les Besson. « Vous n'avez pas eu de difficulté à avaler l'hostie ?»«
Pas trop, mais il y en a un morceau qui m'a collé au palais où il a fondu, » dit Polima.
« Moi, je me suis miré dans le ciboire et j'avais la figure large comme une citrouille, » fit Caroline en riant.
« Et vos bottines craquent-elles ?» interrogea encore la maîtresse.
« Oh oui !» répondirent ensemble Polima et Caroline.
« C'est les nôtres qui craquaient le plus !» ajouta orgueilleusement la première.
Et les Besson firent quelques pas, tournèrent comme pour un rigodon afin de démontrer les qualités musicales de leurs souliers.
on aurait cru entendre jouer de l'accordéon. Au point de vue de la sonorité, ses chaussures étaient phénoménales.
« Il a fallu aller sur Robillard pour en trouver », raconta Polima.
« Maman nous en a fait essayer plus d'une douzaine de paires sur Normando, mais il craquait pas assez. »
Polima tout salit ses gants, observa Caroline pour se venger de ce que sa sœur n'avait pas voulu lui prêter sa gomme. De fait, les gants de coton étaient marqués de larges taches noires.
« Ça peut se laver », déclara l'institutrice. « Je vais vous donner à chacune une image et vous allez avoir congé après-midi. »
Chapitre 7. Les Bessonnes furent confirmées le printemps qui suivit leur première communion. 102 jeunesses reçurent le sacrement en cette circonstance. Il leur fut administré par le nouvel évêque du diocèse, Monseigneur Chagnon, un enfant de la paroisse qui, à 38 ans, à peine, venait de recevoir la mitre et la crosse. Toute la population tenait à lui faire honneur et le curé et les marguilliers organisèrent une grande démonstration. Un cortège de voitures aussi nombreux que possible devait aller chercher le nouveau prélat la veille, dans le rang de la Blouse, chez ses vieux parents, où il faisait une courte visite et l'escortait jusqu'à l'église. Là, en face du temple, se dressait une arche de sapin, comme celle de la procession de la Fête-Dieu. Au haut de la voûte de verdure était suspendue une mitre dorée, avec, sur une longue banderole, l'inscription « Il l'a bien mérité ». Deux adresses, préparées l'une par le vicaire et l'autre par les religieuses du couvent, devaient être présentées à Monseigneur à son arrivée, au nom des garçons et des filles qu'il allait le lendemain oindre du Saint-Crème et qui, depuis un mois, suivaient les exercices préparatoires. Un grand souper avait été arrangé pour le soir au presbytère. Le curé avait invité le maire, les marguilliers, M. Thomas Dubuc, maître chantre, M. et Mme Chagnon, père et mère de l'évêque, et quelques notables. Le maire, M. Aimable Tisseur, marchand de bois et de charbon, avait cru de son devoir de prêter sa voiture pour aller chercher Monseigneur, et il avait chargé l'un de ses hommes de la conduire. Il lui avait fait revêtir l'une de ses redingotes, un peu ample, il est vrai, mais encore bien. L'avait coiffée du haut de forme qu'il avait porté lorsqu'il avait été élu premier magistrat de la municipalité, et il lui avait fait cadeau d'une paire de gants noirs achetés lors de l'enterrement de son beau-père. Pour être à la hauteur, le cocher d'occasion s'était acheté le meilleur cigare à 5 sous qu'il avait pu trouver chez la mère Lalonde, la marchande de tabac et de bonbons. La température, toutefois, gâta un si beau programme. Il commença à pleuvoir le matin, et jusqu'au soir, ce ne fut qu'une série d'averses accompagnées de grands vents. Comme résultat, le cortège ne se composait guère de plus de 20 voitures. À l'entrée du village, une pauvre maison noire et basse, l'air bossu, était décorée d'images de Saint-Joseph et de Sainte-Anne. Sur le perron, abrité par une immense parapluie à gros manches jaunes, se tenait assis un bonhomme d'une 60aine d'années. C'était le père Gagné, un malheureux qui, depuis de longues années, souffrait de rhumatisme inflammatoire et qui avait essayé en vain tous les remèdes possibles. Il s'était imaginé que l'évêque pourrait faire un miracle et le guérir. Lorsqu'il vit venir la procession d'équipage, il se leva péniblement et s'avança au bord de la route. Comme la voiture de sa grandeur allait passer, il se laissa tomber à genoux dans la boue, implorant « Monseigneur, guérissez-moi! Pour l'amour du bon Dieu, Monseigneur, guérissez-moi! » Ce fut à peine si l'évêque put apercevoir le suppliant, car le cocher tout trempé par la pluie et pressé d'arriver ne modéra pas l'allure de ses chevaux qui filaient au grand trot. Le père Gagné fut copieusement éclaboussé par le carrosse qui passait. Il se releva en jurant et, désabusé, plus sombre et plus désespéré que jamais, rentra dans sa demeure. Comme le cortège arrivait sur la place de l'église, l'averse augmenta d'intensité et le vent redoubla de violence. À ce moment,
une bourrasque plus forte que les autres emporta la mitre dorée comme un vulgaire bonnet et l'enleva dans les airs. Et lorsque le nouveau prélat passa sous l'arche de sapin construite par ses ouailles, il aperçut un bout de corde qui s'agitait follement en haut avec au-dessus l'inscription « Il l'a bien mérité ». Chapitre 8. Mademoiselle Léveillé, la nouvelle institutrice, était blonde et mince et plutôt jolie dans sa robe de mérinos bleu. Une boucle de velours noir attachée à ses cheveux lui donnait un air coquet. Sa voix était douce et sympathique comme sa figure. Tout de suite, elle plut aux enfants. 22 élèves s'inscrivirent le lundi, jour de la rentrée des classes. L'avant-midi, Mademoiselle Léveillé se borna à les faire lire et à leur donner une dictée. Lors de la récréation du midi, chacun s'accorda à dire que la maîtresse n'avait pas un air sévère. « Elle se nomme Alice », déclara Marie-le-Duc. « Il paraît qu'elle donne de longs devoirs », remarqua Lesquine pour dire quelque chose. L'après-midi, Mademoiselle Léveillé fit faire des exercices d'écriture et un peu d'arithmétique au tableau. Elle indiqua ensuite les leçons pour le lendemain. « Elles sont courtes, mais apprenez-les bien, » dit-elle. « Je vais voir quels sont les travaillants. » Lesquine prit avec terreur qu'elle devrait étudier la grammaire et l'histoire du Canada. De plus, elle aurait à lire dans le devoir du chrétien et dans le psautier. Le soir, Lesquine s'en retourna songeuse à la maison. Le lendemain, les plus âgés des élèves récitèrent leurs leçons. Le tour de Lesquine arriva. L'institutrice posa la première question. Lesquine n'ouvrit pas la bouche. Mademoiselle Léveillé répéta son interrogation. De nouveau, Lesquine resta muette. Croyant à un défaut de mémoire ou peut-être à une grande timidité et ne voulant pas se montrer trop stricte au début, Mademoiselle Léveillé lui donna les premiers mots pour l'aider. Mais Lesquine n'articula pas une parole. « Mais vous n'avez donc pas étudié ?» interrogea la maîtresse devant cet obstiné mutisme. « C'est pas dans mon livre. »« Pas dans votre livre. Montrez. » Lesquine lui tendit sa grammaire, une vieille grammaire ayant appartenu à ses frères. La première feuille manquait, en effet. Mademoiselle Léveillé regarda longuement l'enfant, mais il n'y avait rien à lire sur cette figure. « Eh bien, pour demain alors, vous apprendrez les deux réponses sur cette page-ci, » déclara Mademoiselle Léveillé. À l'appel de son nom, le mercredi, Lesquine s'avança devant le pupitre de l'institutrice. « Comment forme-t-on le pluriel dans les noms ?» interrogea la petite demoiselle blonde. Lesquine, sans ouvrir la bouche, tournait le coin de son tablier bleu à carreaux entre le pouce et l'index de sa main droite en regardant le plancher. « Comment forme-t-on le pluriel dans les noms ?» questionna de nouveau la maîtresse d'un ton plus bref. « C'est pas dans mon livre. »« Comment ? Pas dans votre livre. » D'elle-même, Lesquine le tendit à Mademoiselle Léveillé. Celle-ci l'ouvrit fébrilement. Une nouvelle feuille manquait. « Mais elle y était hier. Vous l'avez donc arrachée ?» Lesquine restait silencieuse. Voyant l'obstination de l'élève à ne pas répondre, l'institutrice qui répugnait les punitions la renvoya à sa place, ajoutant « Mais je vous préviens que demain, vous devrez réciter sans manquer un seul mot les deux réponses en tête de la page 15. Elles sont dans votre livre, celles-là. » En s'entendant appeler le jeudi, Lesquine s'avança sans sourciller. « Votre leçon était dans votre livre hier soir ?» interrogea Mademoiselle Léveillé. « Non, » fit laconiquement Lesquine. Mademoiselle Léveillé lui arracha la grammaire des mains. La page 15 manquait. « Eh bien, vous l'apprendrez après la classe, votre leçon. Vous l'apprendrez dans le livre que vous voudrez, mais vous l'apprendrez, » cria la maîtresse enfin fâchée. À 5 heures du soir, Masso arriva à l'école et demanda à l'institutrice si elle était folle de garder ainsi sa fille quand elle en avait besoin pour l'envoyer chercher les vaches au champ. Mademoiselle Léveillé tenta d'expliquer ce qui était arrivé. Mais Masso ne voulut rien entendre, répétant seulement qu'elle serait en retard pour traire ses vaches. Masso amena sa fille. Comme la Squine allait sortir, Mademoiselle l'Éveillée lui indiqua une autre leçon pour le vendredi. Le lendemain, ce fut bien autre chose. Lorsque vint le moment de réciter, trois élèves prétendirent avoir perdu leur catéchisme. Les choses se gâtaient. Mademoiselle l'Éveillée crut qu'il fallait sévir. Elle envoya les trois coupables étudier à genoux. Une fois de plus, elle appela la Squine devant elle et l'interrogea sur la grammaire. « C'est pas dans mon livre. »« Tant pis alors, c'est fini de badiner. Tendez la main. » Et la petite demoiselle blonde saisit son martinet. À cet ordre, la Squine se mit à crier et à gémir comme si on l'eût martyrisée. « Tendez la main, » commanda la maîtresse. La Squine, une expression d'épouvante sur la figure, présenta le bout des doigts, le poignet collé contre la cuisse. Ses genoux tremblaient. Lorsqu'elle vit venir le coup, elle retira le bras et la lanière de cuir ne rencontra que le vide. « Tendez la main !» clama la maîtresse. La Squine se tordit, redoublant ses cris de détresse. C'était une plainte aiguë qui s'envolait par les fenêtres. Une voiture passant sur la route s'arrêta et, chez le voisin, la mère Leduc qui faisait cuire sa soupe, sortit sur son perron. Au troisième coup, la Squine s'élança hors de la maison, jetant des cris encore plus perçants. Elle s'enfuit en faisant entendre des lamentations terrifiantes. Elle hurlait comme si on eût cherché à l'assassiner. La fille à Masso courait de toutes ses forces, levant les talons jusqu'aux fesses et s'éloignant avec des cris de cochon que l'on saigne. Les femmes accouraient sur le pas de leur porte et les hommes travaillant au champ tournaient la tête, s'arrêtaient saisis, se demandant s'il arrivait un accident quelque part. La Squine arriva chez elle essoufflée, hors d'haleine. À sa mère alarmée, elle raconta que la maîtresse lui avait donné 12 coups de martinet sur chaque main. Masso partit immédiatement. Elle arriva comme une furie et, devant tous les élèves, fit une scène terrible à l'institutrice, l'accablant de 1000 injures. Elle lui déclara que si elle avait dorénavant le malheur de battre ses enfants, elle aurait affaire à elle. Le soir, dans toutes les familles du rang, on ne parlait que du drame qui s'était passé à l'école. Chacun s'accordait à dire que pour avoir battu une enfant et l'avoir fait pleurer de la sorte, il fallait que la maîtresse fût un vrai bourreau. Le samedi, l'un des commissaires alla voir Mademoiselle l'Éveillée et lui dit que pareille chose ne pouvait être tolérée. Il comprenait qu'il était bon d'instruire les enfants, qu'on pouvait les réprimander, les punir même, mais non les tuer de coups. Il ajouta que tous les parents révoltés demandaient sa démission. Le dimanche, avant la messe, l'institutrice alla voir le curé et lui raconta les faits, tels qu'ils étaient arrivés. Patiemment, le prêtre l'écouta jusqu'au bout. Il parut reconnaître que la justice était de son côté, mais lorsque Mademoiselle l'Éveillée lui demanda d'intervenir auprès des commissaires, il déclara que malgré son vif désir de lui être utile, il ne pouvait se mêler de cette affaire, car ce serait un abus d'autorité. La commission scolaire devait être laissée libre d'agir à sa guise. Mademoiselle l'Éveillée, la petite demoiselle blonde et mince, si gentille dans sa robe bleue, dut s'en aller après une semaine d'enseignement. Et voilà pourquoi la Squine n'a jamais appris la règle du pluriel dans les noms. Chapitre 9. Le dimanche après la messe, les jeunes gens allaient au bureau de poste chercher les journaux, qui la Minerve, qui le Nouveau Monde. Toujours pressés, ils semblaient chaque fois vouloir prendre la place d'assaut, heurtant lui à coups de pied, se bousculant pour avoir leur tour les premiers. Le cou et le menton encerclés dans un haut faux col droit dont les pointes lui entraient dans les joues vineuses, le vieux fonctionnaire passait par la porte privée et lorsqu'il ouvrait, la foule s'engouffrait dans la pièce. Trois ou quatre noms étaient lancés en même temps au bonhomme qui, après s'être coiffé d'une calotte en alpaga, mettait ses lunettes. Il se fâchait alors. « Un seul à la fois, ou je ferme le guichet !» criait-il d'un ton menaçant. La Squine se frayait un chemin dans cette cohue, rendant généreusement les coups de coude et d'épaule et disputant son tour aux garçons. Un dimanche, les premiers arrivants à la distribution reçurent avec leur gazette une enveloppe jaune. Ceux qui vinrent ensuite en retirèrent également. Presque tout le monde eut la sienne. La Squine en emporta une. C'étaient les Lynches, les propriétaires du grand magasin général qui envoyaient leur compte annuel aux fermiers. Celui d'Urgel Deschamps se montait à 75 piastres. L'état détaillé comportait entre autres articles 4 paires de bottines, un moule à chandelle, un fanal, 5 gallons de mélasse et un rabot. Toutes choses que Deschamps était certain de ne pas avoir achetées et surtout de ne pas avoir obtenues à crédit. Les autres cultivateurs qui avaient reçu des lettres avaient la même surprise. Ils trouvaient sur leur facture l'énumération de quantités de marchandises qu'ils n'avaient jamais eues. La demande de paiement se terminait par l'avis que si le compte n'était pas acquitté dans une semaine, des procédures seraient prises contre le débiteur. Deschamps déchira la feuille en jurant et ne s'en occupa pas davantage. 8 jours plus tard, il était à battre son orge lorsque Massot vit tout à coup arriver une voiture qui s'arrêta devant la porte. « Le bailli !» s'exclama-t-elle en reconnaissant Étienne Saint-Onge qui descendait de sa barouche. C'était en effet l'huissier qui parcourait la paroisse, distribuant toute une fournée de papiers judiciaires. Les Lynches tenaient leurs promesses. Le pays allait avoir des procès. La Squine alla en courant chercher son père qui arriva à la figure et les vêtements couverts de poussière. Saint-Onge lui remit les documents par lesquels les Lynches lui réclamaient leurs dettes. Deschamps ne put contenir son indignation et les traita de voleurs et de canailles. Inquiet, l'huissier se hâta de déguerpir, craignant que Deschamps ne fît passer sa colère sur lui. Le soir, le souper au pain sûr et amer, marqué d'une croix, fut d'une morne tristesse. Deschamps dut faire plusieurs voyages au village pour consulter un avocat. Lorsque la cause fut entendue, les Lynches produisirent leurs livres, établissant le bien fondé de leurs réclamations. Deschamps fut condamné à payer le compte et les frais. Presque toute sa récolte d'orge y passa. Jugement fut aussi rendu contre une centaine d'autres habitants dans des causes identiques. Ils durent payer. Plusieurs furent obligés d'hypothéquer leurs terres. D'autres ne purent faire leurs paiements annuels. Des années plus tard, un commis des Lynches payé 8 piastres par mois, s'étant vu refuser une augmentation de salaire, déclara que la plupart des comptes apparaissant dans les livres du magasin étaient simplement des fraudes. Pendant 6 ans, ses patrons l'avaient tenu posté à une fenêtre de l'établissement. Comme il connaissait tous les gens de la paroisse, lorsqu'un fermier passait, vite il le signalait, et un secrétaire enregistrait son nom et l'inscrivait comme ayant acheté ce jour-là toute une série d'articles. L'employé fut congédié, mais comme il avait proféré ses accusations devant plusieurs témoins, il fut arrêté et traduit devant la justice. Le commis indiscret fit 3 mois de prison pour avoir, dit le juge, diffamé ses patrons. Quant à la rue, elle porte depuis le nom de « rue des espions » et personne n'y passe. Chapitre 10. À 16 ans, la Squine était une grande fille, ou plutôt un grand garçon. Elle avait en effet la carrure, la taille, la figure, l'expression, les gestes, les manières et la voix d'un homme. À cette période de ses vies se rattachait une aventure dont elle ne parlait jamais. Son père et sa mère étant allés au village avec Charlot, l'avait laissée comme gardienne à la maison. Au bout de quelques heures, elle s'ennuya d'être seule et alla faire un tour chez son frère Raclore. Ce dernier était également sorti avec sa femme, et la Squine ne trouva là que Facette, le garçon de ferme, en train de se barbifier, et un jeune homme du canal venu pour acheter une charge de foin. L'on badina pendant quelque temps, et l'employé de Raclore finit de se raser. Farceur, l'étranger demanda à la Squine si elle s'était déjà fait la barbe. Celle-ci répondit par un haussement de ses larges épaules, sur quoi son interlocuteur ajouta que ce serait le bon temps, vu que les outils étaient prêts. Facette déclara à son tour qu'il était tout disposé à lui prêter son rasoir et le reste du fourniment. La Squine remercia en riant. Alors, le jeune homme du canal, un type crânement déluré, lui proposa de la raser lui-même. Son copain applaudit à cette idée. « On va te faire la barbe, » dirent-ils. La Squine crut plus prudent de s'en aller, mais il était trop tard. Brusquement, le particulier du canal la saisit par les bras qui lui ramena derrière le dos. Il la tint ainsi immobile. « Lâchez-moi! Lâchez-moi! » criait la Squine en essayant de se dégager. Facette s'avança avec le blaireau tout savonné et l'approcha de la figure de la jeune fille. « Lâchez-moi! Lâchez-moi! » hurla de nouveau la Squine, en faisant un furieux effort pour s'échapper. Elle était cependant solidement maintenue et le barbier improvisé commença à lui couvrir les joues et le menton d'une mousse blanche et tiède. Il lui en glissa dans le cou et les oreilles, et la Squine, chatouillée, se mit à rire en poussant de petits cris. « Tu vois bien que ça fait pas mal, » dit celui qui avait eu cette inspiration. Les deux garçons riaient aux éclats et, de fait, le visage de la Squine offrait un aspect fort réjouissant. Facette laissa là la savonnette et courut chercher un petit miroir accroché à la fenêtre. « Comment te trouves-tu? » demanda-t-il en le tenant devant la Squine. « Lâchez-moi, » fit-elle encore, et d'un brusque mouvement, elle s'échappa des mains des deux farceurs. « Faut nous payer à cette heure, » déclara le gars venu pour acheter le foin. Mais la Squine, qui s'était torché la figure avec un vieux rouleau sale, s'enfuit en toute hâte. Toujours elle demeura muette sur cet incident, mais lorsqu'on parlait devant elle des gens du canal, elle soutenait que ce n'était qu'un tas de malappris et de polissons. Chapitre 11. Les Besson avaient 20 ans. Deschamps, ayant deux filles à marier, planta devant sa porte deux poteaux auxquels les cavaliers pussent attacher leurs chevaux. Un dimanche, Raclore, déjà en ménage depuis 3 ans, vint présenter à ses sœurs un jeune fermier de la paroisse voisine. Caroline parut lui plaire, et il sollicita la permission de revenir. Elle lui fut accordée avec plaisir. Une semaine plus tard, Caroline le voyait arriver dans un beau boguet traîné par un fringant cheval noir. L'attelage, très propre, avait des boucles dorées qui reluisaient au soleil. En débarquant, l'homme jeta sur sa bête une jolie couverte blanche et violette. Ce devait être un bon parti. Et il apportait à sa blonde une bague en argent sur laquelle étaient gravés 2 cœurs entrecroisés. Le jeune homme continua ses visites. Au bout d'un mois, il tutoyait Caroline. Le vieux, cependant, n'aimait pas ses manières, avait peine à le tolérer. Un soir, au milieu de la veillée, alors que Deschamps était couché, le galant souffla la lampe. Le père s'en aperçut, se leva et vint la rallumer. Il avait à peine regagné sa chambre que, de nouveau, la lumière s'éteignit. Deschamps se releva, mais comme il allait passer sa culotte, il entendit le gars demander son chapeau. Les adieux furent très longs. Finalement, des pas résonnèrent sur les degrés de l'escalier et une grosse voix railleuse qu'on étouffait à demi ricana. « Ton bœuf t'a-t-il assez corné? » Deschamps, indigné, chassa l'effronté. 6 semaines plus tard, Caroline avait un nouveau prétendant, un cultivateur de la blouse, Titoine Saint-Onge. Sans être brillant, c'était un bon garçon. La fréquentation ne fut pas longue et le mariage fut vite décidé. « Certainement que je vous donne ma fille, » répondit Urgel Deschamps lorsque son futur gendre lui fit la demande. « Je vous donne ma fille et je vous vends un poil, » ajouta-t-il en riant. Et il lui expliqua que lorsque l'un de ses enfants se mariait, c'était lui qui lui vendait cet article de ménage. « Je verrai à ce qu'il ne vous coûte pas trop cher, » fit-il en badinant. La vérité était que Urgel Deschamps, qui fréquentait les encans, profitait des occasions qui s'offraient et revendait ensuite le poêle traditionnel le double de ce qu'il l'avait payé. À quelques jours de là, Caroline eut une première désillusion. Le deuxième dimanche de la publication des bans, son promis vin, en effet, l'avoir coiffé d'un antique haut de forme, ressemblant assez à celui de son père, mais mieux conservé cependant. « Mais il n'est pas à la mode, » s'écria-t-elle. « Où donc avez-vous pêché ça ?» Décontenancé, le pauvre diable avoua en hésitant avoir acheté le chapeau du docteur Trudeau. Il était allé là se faire extraire une dent, et le médecin, apprenant que son client allait se marier, lui avait offert son tuyau, encore en bon état et qui n'avait été porté que 3 ou 4 fois. Cela, cependant, remontait à l'établissement du docteur dans la paroisse 12 ans passés. Caroline adressa de vifs reproches à son fiancé. Se sentant coupable, ce dernier ne répondit rien. 23 voitures formèrent le cortège de noces le matin du mariage. Chacun avait décoré son attelage de rameaux d'érable accrochés à la bride et au harnais. Le marié portait un habit de drap et la mariée une toilette de mérinos gris et des bottines de prunelle. Charlot, le garçon d'honneur, avait un complet en tricot. Au retour, en prenant le chemin de la Blouse, le vent emporta la coiffure de Saint-Onge et son boguet passa dessus, l'écrasant complètement. Charlot, qui venait en arrière, sauta à terre et ramassa le chapeau. Celui-ci était dans un état pitoyable. Comme il n'y avait rien à faire, Charlot le mit sous le siège de sa voiture et prêta son propre couvre-chef à son beau-frère. Pour lui, il continua nu-tête. Quelques jours après, la Squine déclarait à la mère Lecomte, sa voisine, que Saint-Onge aimait bien sa femme. Il l'avait embrassée 8 fois en revenant de l'église. Ceci conclut le premier de 4 épisodes consacrés à la lecture de La Squine, un roman d'Albert Laberge. Pour réécouter l'un des épisodes ou pour écouter le livre dans son intégralité ou encore connaître l'horaire de diffusion, rendez-vous sur le site web de Canal M à l'adresse canalm.vuzevoie.com. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et suggestions par courriel à l'adresse suivante, canalm@vuzevoie.com. C'était André Lebeau au micro de Canal M pour vous offrir ce moment de détente et d'évasion. Je vous souhaite une excellente semaine à notre antenne et je vous dis au revoir et à très bientôt pour un nouvel épisode de votre feuilleton littéraire « De la plume à l'oreille ».